journal, présenté par Mathieu Laurent.
Au sommaire de cette édition, bonsoir à tous. La convocation par la justice internationale du Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, pour crime de guerre. L'enquête sur les dîners fastueux de François de Rugy à l'hôtel de Lassay qui s'apprête à conclure qu'ils étaient tous d'ordre professionnel. Les recalés de Parcoursup et la règle à calcul du gouvernement invalidée par l'UNEF. Enfin, les sénateurs qui verdissent en première lecture le projet de loi énergie et climat au chapitre « Rénovation thermique des logements ». La guerre dans l'ex-Yougoslavie avec deux décisions de justice lourdes de sens ce vendredi quand la Cour suprême des Pays-Bas juge que l'État néerlandais n'a qu'une responsabilité très limitée dans la pire tuerie commise en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le massacre de Srebrenica. Srebrenica, faut-il le rappeler, déclaré zone de sécurité par l'ONU sous contrôle du casque bleu néerlandais, 8000 morts. Le tribunal spécial international, lui, convoque le Premier ministre du Kosovo, ancien commandant de la guérilla kosovare. Elle soupçonne la justice internationale Ramush Haradinaj de crimes de guerre. C'est une correspondance de Belgrade de Laurent Rouy.
Ramush Haradinaj n'en est pas à sa première confrontation avec la justice internationale. Premier ministre en 2005, il avait déjà démissionné pour se rendre au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il était accusé du meurtre de civils serbes et roms pendant la guerre d'indépendance. Acquitté après 3 ans de détention, il avait de nouveau échappé à la prison en appel en 2012. Enfin, il avait été arrêté en France en 2017 à la demande des autorités serbes, mais la France l'avait rapidement relâché. Chef de guerre emblématique du conflit, Ramush Haradinaj est vu comme un héros par les Albanais du Kosovo, alors que les Serbes voient en lui un criminel bénéficiant d'une impunité de fait à cause de ses responsabilités politiques. Habile négociateur, Haradinaj a souvent tenu des rôles politiques de premier plan malgré la faiblesse de son petit parti. Il quitte le gouvernement en insistant sur l'organisation de législatives anticipées pour lesquelles il annonce déjà sa candidature. Si l'opposition arrive à un accord, ces hypothétiques élections pourraient ne pas avoir lieu. Mais dans le cas contraire, il y a fort à parier qu'Haradinaj sera soutenu dans les urnes malgré ses nouveaux déboires judiciaires.
Un attentat à la bombe à Kaboul, 8 morts devant un campus universitaire où des étudiants étaient rassemblés avant un examen. Quelques heures avant cet acte, les talibans revendiquaient un double attentat à la voiture piégée à Kandahar, dans le sud du pays. 12 morts et 80 blessés. Échange d'amabilité entre Téhéran et Washington et alliés. Les gardiens de la révolution prétendent ce soir avoir confisqué le pétrolier britannique Stena Impero dans le détroit d'Hormuz pour, je cite, « non-respect du code maritime international ». La Cour suprême de Gibraltar, elle, instance d'un territoire sous gouvernement britannique, prolonge de 30 jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace One, navire arraisonné le 4 juillet. Son équipage est suspecté d'avoir pour mission de livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions internationales contre le régime de Bachar el-Assad. L'une des révélations qui ont contraint la démission, l'ex-ministre de la Transition écologique, François de Rugy, serait invalidée par l'une des enquêtes en cours. Enquête dont les conclusions seront rendues publiques mardi prochain. Les dîners organisés à l'hôtel de Lassay, quand François de Rugy était président de l'Assemblée nationale, seraient tous d'ordre professionnel. Rosalie Lafarge.
C'est le bilan d'une série de vérifications de plusieurs rencontres avec François de Rugy, avec les questeurs de l'Assemblée nationale, au regard des travaux de la déontologue aussi. Le secrétaire général de la présidence du Palais Bourbon en arrive à cette conclusion. Tous les dîners visés étaient professionnels. C'est ce qui ressort notamment des listes d'invités, une trentaine à chaque fois, soit environ 300 personnes en tout. Quand on en voit les noms, nous glisse un haut placé de l'Assemblée, on voit bien qu'il ne s'agit pas de gaudrioles avec des copains, mais bien de dîners de travail. Certes, avec une partie de personnes qui sont des connaissances, poursuit cette même source, mais des connaissances qui permettent d'avoir des informations utiles au président de l'Assemblée nationale. Sauf nouvelles révélations ou nouveaux faits déterrés entre-temps, c'est donc a priori ce que va conclure le rapport d'enquête de l'Assemblée. Il doit être publié mardi et il devrait aussi faire état de l'affaire du sèche-cheveux. C'est effectivement un appareil haut de gamme, mais contrairement à ce qui a pu être relayé par certains organes de presse, il n'est pas plaqué or et il a bien été laissé à l'Assemblée nationale.
faire parler les chiffres et leur faire dire ce que bon nous semble, rien de nouveau sous le soleil. Le bilan de la deuxième édition de Parcoursup n'assemblerait-il pas échappé à ces petits arrangements avec l'arithmétique? Théo Conscience, le syndicat étudiant l'UNEF, conteste le bilan du gouvernement.
Oui, en tout, plus de 58 000 jeunes sont toujours sans affectation pour l'an prochain. Une grosse moitié d'entre eux sont des lycéens qui viennent d'avoir le bac. Le reste sont des candidats en réorientation ou scolarisés à l'étranger. Pour autant, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, la situation s'est améliorée par rapport à l'an dernier, notamment grâce à un calendrier accéléré. Jérôme Teillard est chargé de mission Parcoursup au ministère.
Cette année, c'est allé plus vite. Si je compare à date, on a 5 points de plus. Donc 88,6% des candidats lycéens ont eu une proposition. Évidemment, on était à 83 l'an dernier, donc c'est mieux, ça va plus vite. Donc ça a ajouté de la sérénité dans les lycées.
Baliverne, répond l'UNEF. 58 000 candidats sans affectation, c'est presque 11 000 de plus que l'an passé. Si le ministère y voit une amélioration, c'est parce qu'il ne prend en compte que les lycéens et laisse de côté les candidats en réorientation. La présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
On se retrouve avec des étudiants qui, l'année dernière, ont candidaté sur Parcoursup, se sont retrouvés sans solution ou alors avec une solution qui ne les intéressait pas, ont passé un an à travailler et qui recandidatent, mais cette année n'ont pas de réponse. Donc on ne peut pas juste rayer de la carte ces étudiants et faire comme s'ils n'existaient pas. Il faut les compter dans le dispositif.
Quelle que soit l'analyse de ces chiffres, l'UNEF estime que personne ne peut se satisfaire de ces 58 000 candidats laissés sur le carreau. Le syndicat en tire deux conclusions. D'abord, la nécessité urgente de créer de nouvelles places dans l'enseignement supérieur. Ensuite, l'impasse que représente ce système basé sur la sélection.
Près d'un mois après la disparition, Kay Wilson à Nantes, lors de la fête de la musique de Steve Maya Canisso, pas l'ombre d'une information. La police est bien intervenue pour mettre fin à une soirée techno, charge dont les proches de Steve sont persuadés qu'elle est à l'origine de la disparition du jeune homme. Plusieurs enquêtes sont en cours, mais rien, le doute s'épaissit, une partie de la classe politique s'inquiète du silence des autorités et l'avocate des 85 personnes qui ont porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique s'impatiente. Maître Marianne Rostand.
Moi, j'ai hésité à déposer plainte également pour non-assistance à personne en danger, mais j'avais très peu d'éléments au moment du dépôt de plainte. Depuis, on a eu connaissance de certains éléments, notamment avec les vidéos qui ont été publiées par le site Libération. Et ce qui apparaît dans les vidéos, c'est qu'on entend plusieurs jeunes indiquer aux forces de l'ordre qu'il y a des personnes qui sont tombées dans la Loire. C'est pas seulement qu'il y a des risques ou que c'est dangereux. On entend des personnes qui disent très clairement à l'attention des forces de l'ordre qu'il y a des personnes qui sont tombées à l'eau. Et l'enquête devra déterminer si les forces de l'ordre qui étaient présentes ont fait tout le nécessaire pour porter secours aux personnes qui étaient en situation de danger.
Et vous, quel est le scénario que vous privilégiez ?
De toute manière, il n'y a pas énormément de possibilités. Un mois après la disparition de Steve, toutes les investigations ont été menées et concentrées uniquement sur la Loire, parce que la seule possibilité qui existe malheureusement, c'est que Steve soit tombé juste après l'intervention des forces de l'ordre. Tous les éléments dont on a connaissance conduisent à penser que malheureusement il a chuté dans la Loire, et c'est pour ça que je pense son père a indiqué qu'aujourd'hui on recherche le corps de Steve et plus Steve vivant.
Et un rassemblement est prévu demain après-midi à 15h30, quai Wilson, sur l'île de Nantes. Les sénateurs valident au chapitre rénovation énergétique des logements l'une des dispositions du projet de loi énergie et climat que les députés n'avaient pas retenu. La mesure concerne quand même 7 millions de logements. Véronique Rebérotte, les sénateurs s'inspirent directement là de promesses de campagne du chef de l'État.
En 2017, Emmanuel Macron promettait d'interdire à la location les logements les plus énergivores à partir de 2025. Promesse de campagne présidentielle balayée par les députés lors de l'examen du projet de loi en première lecture, c'était en juin dernier. Préférant le volontarisme à la sanction, dixit le ministre de l'écologie François de Rugy. Le texte des députés renvoie donc à 2028 la possibilité de sanctionner les propriétaires de passoires thermiques qui n'auraient pas réalisé les travaux d'isolation d'un logement qu'ils entendent vendre ou louer. Les sénateurs vont donc bien plus loin que les députés. Dès 2023, les locataires en place dans des logements les moins isolés pourront en réclamer la mise aux normes, une disposition adoptée à une courte majorité grâce à des amendements de sénateurs indépendants, centristes et communistes, contre l'avis de la toute nouvelle ministre de l'écologie, Elisabeth Borne. Le gouvernement a réussi à atténuer tout de même la portée de cette disposition en prévoyant d'exclure de cette obligation de mise aux normes les logements en copropriété, soit 73% tout de même des passoires thermiques. Des avancées jugées intéressantes par la Fondation Abbé Pierre, qui redoute qu'elles ne soient de courte durée, il n'est pas sûr qu'elles passent le cap de la commission mixte paritaire du 25 juillet prochain, commission qui doit accorder les textes des sénateurs et des députés.
Quelques mots de la météo de demain, temps agité sur une bonne partie du territoire, température minimale comprise entre 14 et 22 degrés. Cette édition a été préparée avec Annie Brault à la technique Nasser Moussaoui.